Bonjour,
bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir à Poste Face avec un sujet particulièrement sensible qui touche, je crois, tout le monde, père, fille, mais universel. Vous publiez votre troisième ouvrage chez Anne Carrière, Père d'aujourd'hui, fille de demain. Vous avez toujours exploré des choses sensibles, les nœuds familiaux, la souffrance, le deuil. Vous allez au cœur des choses, mais je crois que dans ce troisième livre, vous allez au-delà. C'est un livre très original parce que c'est une mosaïque de points de vue. Donc vous explorez le thème principal, c'est ces relations entre les pères et les filles, qui sont les plus mystérieuses qui soient, mais avec des témoignages très forts de gens connus et inconnus, ponctués par des analyses de professionnels, de psychanalystes, de pédopsychiatres, j'en cite quelques-uns, Catherine Matelin qui ouvre le livre, Louis Parès, c'est un homme assez étonnant qui dirige des ateliers de réflexion entre les pères et les filles, Jean-Claude Guyaudet, François Durcel, et puis le clou, c'est quand même l'arroseur arrosé, c'est Ruffaut analysé par sa fille. Et voilà, donc, bon.
Et il réagit, il donne ensuite son point de vue sur ses propres relations avec sa fille, et c'est extrêmement courageux, humble, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, parce que il n'est pas là du tout à se poser comme un père modèle, il est là à reconnaître ses insuffisances, et dire que le seul mauvais père est le père qui, justement, qui se croit parfait.
C'est vrai que c'est une des interviews les plus passionnantes, hein. Enfin, elles sont toutes passionnantes, hein, à des niveaux différents. Comment ce livre est né ? Vous êtes la fille de quelqu'un, vous êtes la fille de quelqu'un, vous êtes la mère d'un petit garçon. On voit en ce moment beaucoup de livres qui, d'une façon ou d'une autre, explorent ces nœuds familiaux. Il y a eu un livre qui est sorti chez Fayard sur les relations entre les mères et les filles. Quelle violence. Bon, il y a le livre de Ruffaut sur les frères et les sœurs. Donc pourquoi ce livre et au fond, à qui s'adresse-t-il ?
Alors d'abord, ce livre s'adresse aux filles. Et j'ai la grande surprise et l'émotion de recevoir beaucoup de témoignages aujourd'hui de pères qui sont presque les plus enthousiastes, qui me disent « Votre livre est un livre d'amour ». Ce livre, encore, j'ai reçu un petit mot hier d'un père qui me dit « Grâce, ce livre m'a réconcilié avec ma fille ». Enfin, je suis vraiment extrêmement touchée par les témoignages de pères qui lisent ce livre et qui trouvent des repères pour savoir comment se comporter et se conduire, et surtout comprendre leur relation avec leur fille.
On va juste donner un exemple, il y a eu juste l'intervieweur précédent qui voulait à tout prix acheter votre livre, il venait de faire son interview avec sa fille, Olivia, et il était passionné déjà, avant même de l'avoir lu. Hein.
Voilà, donc moi, au départ, j'écrivais pour les filles, parce que je suis journaliste à Psychologie Magazine, je suis plongée dans ce milieu-là, comme vous l'avez dit, depuis longtemps, et j'ai assez rapidement compris que le père, que l'importance du père, et comment, et le rôle qu'il pouvait jouer dans la construction de la fille. C'est-à-dire que vraiment, le père est au croisement des relations. C'est avec le père que se jouent les relations ultérieures de la fille avec les autres, avec le futur homme de sa vie, avec la société. C'est avec lui que se joue la confiance en soi, c'est avec lui que se joue la capacité de réaliser des choses. Donc la responsabilité du père vis-à-vis de sa fille est énorme, et elle est peu connue. On parle toujours des relations mère-fille, vous parliez donc de cet ouvrage qui est d'ailleurs remarquable, mais on parle très très peu, et on a très très peu parlé, il existe très peu de livres sur les relations père-fille, donc j'ai vraiment voulu explorer cet univers à une époque où toutes les règles sont en train de changer. Donc on a vraiment besoin de repères. Moi, j'ai voulu donner au départ des repères aux filles pour comprendre leur relation avec leur père.
Ah, c'est un livre très fort qui a le mérite de vous faire plonger au fond de soi-même et qui est positif dans le sens que vous le disiez, et d'autres d'ailleurs interlocuteurs, enfin, dans le livre, d'autres témoins le disent, c'est que les relations ne sont pas figées. C'est-à-dire que même les relations que le père est mort, on peut aller dans une autre direction et faire évoluer les relations qu'on a eues pénibles ou heureuses avec un père, les faire évoluer en prenant conscience. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un livre très important.
Oui, je vous remercie beaucoup de le souligner, parce que c'est effectivement la base de ce livre. C'est-à-dire que ce livre est conçu pour donner des pistes de réflexion aux filles, pour améliorer non pas forcément leur relation avec leur père, mais en tout cas qu'elles accèdent à une compréhension qui puisse permettre de la dépasser, parce qu'il est effectivement toujours possible de se libérer et de dépasser une relation au père, mais encore faut-il s'y plonger, encore faut-il essayer de la comprendre, encore faut-il travailler sur soi. Et ce livre donne un petit peu pour ambition de donner des pistes de réflexion pour que les filles puissent, malgré une relation, même si elles ont une relation difficile avec leur père, arriver à s'en libérer et à lui pardonner parfois.
Alors, Catherine Mathelin, l'une des psychanalystes qui est interviewée dans cet ouvrage, dit au fond, elle démarre très fort en disant le père, c'est la santé.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors ça, j'ai vraiment aimé cette interview parce qu'elle elle rappelle un petit peu les bases. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pères malheureux. Pour moi, il n'y a pas de mauvais pères. Il y a des pères malheureux, des pères maladroits. Et en fait, la simple présence du père est y compris parfois dans le langage de la mère. C'est-à-dire que le père peut être présent à travers la mère. Donc c'est le cas, par exemple, lorsqu'un père est mort, si la mère parle du père à sa fille, le père sera quelque part présent. Donc la simple présence du père, déjà, est un signe de santé. Je veux dire, la pire des choses, c'est effectivement l'absence totale de père. La pire des choses, c'est de faire croire à sa fille que le père n'a joué aucun rôle dans sa naissance. Et de mettre le père hors jeu, c'est un grave handicap pour la fille. Un des axes fondamentaux de ce livre est de dire que le père est tout aussi important que la mère dans la construction de la fille. Et c'est peu connu, on parle souvent.
Alors, elle va même plus loin, elle dit que finalement, au fond, ça suffit de sa pensée, c'est-à-dire que le père ne fait pas de mal, c'est la mère qui fait du mal. Parce qu'elle dit que finalement, le regard qu'on a sur son père passe par le regard de la mère. Hein.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la mère qui fait du mal. On ne peut pas aller jusque-là.
Oui, je comprends. Jusque-là. Hein.
Elle dit, en effet, que le complexe d'Œdipe, la première étape du complexe d'Œdipe, c'est que la fille va regarder son père à travers le regard de la mère. Mais de là à dire que la mère est responsable, c'est beaucoup dire, parce qu'en fait, c'est la relation entre eux deux qui se joue. Et on ne peut pas dire que l'une est responsable de l'autre. Donc effectivement, si au moment de la naissance de la fille, la mère a un regard négatif sur le père, on ne peut pas dire que la mère en est entièrement responsable. Elle en est en partie seulement responsable. Le père a son rôle à jouer également. Donc je ne le présenterai pas comme ça, même s'il y a une réalité.
Alors qu'est-ce qu'elle appelle un Œdipe raté ? Elle a cette formule qui revient plusieurs fois. Qu'est-ce que ça génère finalement, un Œdipe raté pour elle ? Donc c'est une défaillance affective par la suite
Alors le vrai Œdipe raté, c'est effectivement quand il n'y a eu aucune relation d'ordre affectif entre la fille et son père. C'est-à-dire que l'Œdipe fonctionne même s'il y a une relation de haine.
Mais il faut mieux une relation de haine, parce qu'il y a quelque chose au moins.
Voilà, il faut un lien affectif.
Sur lequel on peut construire ensuite.
C'est ça, qui peut évoluer, se transformer, se métamorphoser et se travailler. Mais effectivement, la relation de Œdipe raté, c'est quand il n'y a pas de rencontre du tout. C'est ça, la relation de Œdipe raté.
D'accord, donc il faut mieux une violence, elle le dit, voilà. Aimer ou haïr, c'est toujours de l'affect. Le complexe d'Œdipe va se faire s'il y a des affects qui se jouent par rapport au père.
Voilà, donc ce qui compte, c'est qu'il y a une relation.
Un contact. Alors, dans beaucoup de. On va revenir sur les témoignages qui sont très forts. Beaucoup de filles, quand elles ont une relation réussie avec leur père, parlent d'épines dorsales, de colonne vertébrale.
Oui. C'est une des fonctions fondamentales du père, c'est de donner la colonne vertébrale à ses filles. Alors, il y a une interview passionnante de Monique Brion, dans ce livre aussi, qui dit que ce qui est très difficile pour les pères, c'est de donner à la fois la colonne vertébrale, ma fille. Plus tard tu réaliseras des choses, tu sauras te construire, lui donner des repères, et en même temps pour le père d'apprendre à sa fille d'être un objet de désir pour les hommes. Donc beaucoup de pères sont soit l'un soit l'autre, soit ils disent à la petite fille oh comme tu as une jolie robe, comme tu es jolie aujourd'hui, et ta poupée comment elle va, etc., etc. Donc elle lui apprend de cette manière, je simplifie bien entendu, à devenir un objet de désir plus tard pour les hommes. Ou bien il dit, allez, viens, plus tard, tu prendras ma succession à la tête de l'entreprise, c'est toi mon successeur. Et de faire les deux est très difficile pour les pères.
Et puis aussi, si on désigne sa fille comme un objet de désir, bien dire que c'est un objet de désir pour les autres.
Je vous remercie aussi beaucoup de le signaler. Ça, c'est un des nœuds fondamentaux du rôle du père et de la fonction du père et de ce livre, c'est-à-dire que vraiment le père est le garant de l'interdit de l'inceste vis-à-vis de sa fille. Donc la base du papa, du vrai papa, c'est de savoir dire à sa fille, de le penser profondément, tu ne m'es pas destinée, tu es destinée à un autre homme.
C'est Catherine Dolto qui dit qu'à partir de 6 ans, il y a un moment où le contact, le toucher doit être de plus en plus rare dans ses livres. Enfin.
Alors écoutez, je ne crois pas que ce soit le toucher qui doit être de plus en plus rare, mais il faut une vigilance. Et surtout, je veux dire à la limite, si on est clair dans sa tête, on peut tout se permettre. Si vraiment il est clair dans la tête du père que sa fille ne lui est pas destinée, et que plus tard elle ira avec d'autres hommes, tout est possible. C'est ce que pense profondément le père. Il y a beaucoup de pères qui disent, je crois que c'est aussi Catherine Matelin qui le raconte, qu'un père a dit à sa fille à la veille de son mariage, de toute façon, le premier homme de ta vie, ça sera toujours moi.
Terrible,
et encore, heureusement, il a le mérite de l'avoir exprimé.
Oui.
Beaucoup de pères le pensent sans le dire. Donc ça, effectivement, c'est une des plus graves choses qu'on puisse faire à sa fille. C'est dans ces cas-là, la fille reste prisonnière si elle ne travaille pas sur elle-même, si elle ne comprend pas l'enjeu et ce qui se passe derrière, elle risque de rester prisonnière, y compris si elle est mariée, de la relation avec son père, et de rester une éternelle petite fille intérieure, même si elle est mariée avec des enfants.
Il y a une des illustrations qui est assez extraordinaire, je trouve que c'est un des témoignages les plus forts, c'est Jackie, qui est peintre, qui a une soixantaine d'années, et qui a vécu avec un père qui lui a donné un amour fou, un amour passionné. Je voudrais que vous nous racontiez cette histoire, parce qu'elle est hallucinante, elle est digne d'un roman, un romancier n'oserait pas.
Je suis pas sûre d'être capable de raconter cette histoire, parce que Jackie la raconte formidablement bien. Moi, chaque fois quand je retranscris des témoignages, j'essaye de garder la saveur et les mots de la personne, je le travaille beaucoup, mais je garde la musique des mots, donc elle le raconte extrêmement bien. Donc je suis pas sûre d'être capable de la raconter, cette histoire, mais c'était le genre de père qui un jour avait de l'argent, un jour pas, et le jour où il avait de l'argent, il mobilisait un étage, il louait un étage entier à l'égard de Lafayette pour dire à sa fille, bon ben voilà, tu as eu l'après-midi pour toi, l'égard de Lafayette pour toi, et tu choisis ce que tu veux, habille-toi et je te regarde. Donc, par exemple.
Et elle raconte aussi, ça c'est aussi assez hallucinant, donc elle va se coucher comme toutes les petites filles du monde, puis vers minuit, son père la réveille, elle s'habille, et il va l'emmener, elle a 6-7 ans, manger des huîtres toute la nuit.
Voilà.
En tête à tête.
Voilà.
Amoureux.
Voilà.
Et ce qui est terrible, c'est qu'en même temps, je crois, elle est peinte, donc je pense que toute sa créativité a été exacerbée par cet amour, l'amour que lui a porté son père, et qu'en même temps, elle dit que le jour de la mort de son père, elle est en quelque sorte libérée.
Oui, c'est le jour de la mort de son père qu'elle a pu être capable de se marier. Et encore, il y avait encore un long travail à faire ensuite de compréhension, qu'elle a d'ailleurs fait. Mais effectivement, ce père merveilleux, vraiment, quand on lit ce témoignage,
quelle chance
d'avoir eu ce père-là.
Oui.
Mais finalement, au finish, ce n'est pas une femme qui a été très heureuse en amour. Pourtant, elle a fait des rencontres extraordinaires d'un homme merveilleux, mais qu'elle a laissé passer parce qu'elle n'avait pas besoin de lui. Elle était, sa relation amoureuse, elle l'avait avec son père, donc les hommes merveilleux qu'elle a croisés et qui étaient amoureux d'elle, elle ne les a pas vus, elle n'a pas su les garder.
C'est une relation extraordinaire, comme il y en a énormément dans ce livre, des témoignages fantastiques. Donc je rappelle le titre de votre livre, Père d'aujourd'hui, fille de demain, Valérie Colas-Marchais, Anne Carrière. On écoute un peu de musique avant de retrouver ces relations si tendues.
C'est qu'un jour viendra, car la vie le commande, ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra où triste et solitaire, en soutenant ta mère et en traînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert. Je rentrerai chez nous où tu ne seras pas. Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise, dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge où l'on force les cages ayant trouvé sa voie. Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir tes années, lui qui viendra voler ce dont j'ai le plus peur, notre part de passé, notre part de bonheur. Cet étranger sans nom, sans visage, oh combien je le aime. Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse, je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse, mais je lui offrirai mon cœur avec ta main. Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes, simplement car je t'aime le jour où il viendra.
Merci à Laurent qui est toujours le meilleur, qui sait comme ça, c'est comme la forme et le fond, bah, il trouve la musique qui reflète notre thématique. Donc Valérie Colin-Simard, on vous retrouve pour votre livre Père d'aujourd'hui, fille de demain chez Anne Carrière. Donc moi j'ai trouvé les témoignages très très forts, donc vraiment, elles vous font vraiment plonger au fond de vous-même, donc ponctuer comme on l'a dit par des analyses de spécialistes. Ces témoignages, comment vous avez procédé, le choix, comment s'est-il fait, comment s'est-il opéré?
Alors d'abord, j'étais à la recherche de témoignages au plus près de la normalité. Alors bien entendu, la normalité n'existe pas. Alors la preuve, parce que chaque histoire est extraordinairement riche, est unique, particulière, parfois violente. Mais en tout cas, ma recherche allait vers là. Je voulais aller au plus près de la normalité. Et j'ai découvert qu'en effet, dès qu'on voyait des histoires soi-disant idylliques, derrière, il se cachait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, mais je ne voulais surtout pas aller du côté de la pathologie. Je voulais comprendre, vous et moi, nos relations avec nos pères, et trouver des repères de constructifs. Donc ça a été le premier critère. Et puis le deuxième critère, c'est tout simplement des rencontres. C'est-à-dire, il faut que la personne, il faut une grande confiance pour accepter de témoigner.
Parce qu'ils se livrent beaucoup, ça c'est grâce à votre talent, hein, mais ils disent beaucoup, tous.
Et c'est grâce à la confiance qu'ils m'ont fait, la confiance que, il faut une confiance réciproque. Et donc c'était le second critère, ça a été des rencontres avec des pères et des filles qui ont accepté de me confier leur histoire sans réserve. Donc c'était le second critère de
et sans qu'il sache ce que l'autre a dit.
Ah hein. Oui, absolument.
Alors, moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est la famille de Joëlle Goron, hein, qui est journaliste à Cosmopolitan, qui est chroniqueuse à la télévision. Et je trouve que son histoire est très forte, parce qu'on a son témoignage par rapport à son père, on a le témoignage de sa fille Zoé par rapport au mari de Joëlle Goron, et le témoignage du mari de Joëlle Goron. Et donc, peut-être pour résumer, elle aussi, elle a eu un père qui l'a vraiment faite. Elle sort d'un tout petit milieu, le père est boulanger. À 9 ans, il est rentré dans la vie professionnelle, mais c'est un homme d'une grande culture qui lui a appris à penser par elle-même. Elle a une formule d'ailleurs que je trouve très forte. Elle dit qu'avec lui, elle avait des discussions d'homme à homme. Qu'est-ce que ça vous donne à penser, ça?
Oh, l'histoire est de Joëlle Goron et d'une richesse inouïe, donc j'aurais peur vraiment de la réduire si j'en dis deux ou trois mots. Enfin, je vais essayer. D'abord, c'est très frappant parce que c'est un exemple inouï de père qui aimait mais profondément sa fille et qui ne savait pas lui manifester de la tendresse. Il n'y avait jamais aucun signe de tendresse entre Joëlle et son père. C'est-à-dire que elle descendait le matin. Elle disait bonjour aux employés en leur serrant la main, et elle disait bonjour à son père en lui serrant la main. Il n'y avait jamais aucune tendresse entre eux, ni de mots d'affection. Et pourtant, l'amour se dégage qu'il avait pour elle et qu'elle avait pour lui. Est présent
ment toute sa vie
à chaque ligne.
À chaque ligne. Et elle, il lui a appris à penser, elle lui a donné le goût de la lecture. Enfin, il a fait qu'elle est sortie complètement du lot, hein,
ouais,
et qu'elle a réussi
ça.
Sa vie. Alors en même temps, il y a une relation très dure avec la mère. Elle le dit d'ailleurs quand elle va dans le fournil, elle passe devant sa mère lui dit tu as quelque chose à me raconter? Rien. Elle lui ouvre pas la bouche et elle va voir son père et elle lui raconte toute sa journée. Et c'est terrible cette relation. Enfin, je pense que pour la mère, il doit avoir une jalousie terrible. Et elle lui dit d'ailleurs qu'elle n'aimait pas sa mère.
Oui.
Est-ce que ça vient de cet amour fou pour son père? Enfin, est-ce qu'elle
ça, c'est les zones d'ombre qu'on peut essayer de deviner, de projeter. J'ai moi-même des suppositions, mais je ne me permettrai pas sur ces témoignages. Je veux bien préciser que tout ensuite, les interviews de psychanalystes sont là pour donner des repères de compréhension au lecteur, mais que c'est au lecteur de se faire son opinion. Et j'ai voulu garder ça, parce que je ne me permettrai pas de moi-même, même si j'ai mon opinion, de dire sur ces personnes qui ont accepté de me donner leur témoignage, de donner des étiquettes comme ça, toutes faites. Je préfère que chaque lecteur...
C'est la vie qui est riche et qui...
La vie est, voilà. Alors j'ai essayé d'être le plus clair possible, et j'ai eu envie que chaque lecteur puisse se faire sa propre opinion sur ces témoignages.
Ce que je pense qu'on peut dire, en tout cas, il y a une constatation qu'on peut faire, c'est qu'il y a des schémas qui se reproduisent.
Oui.
C'est-à-dire que Zoé, qui est la fille de Joël Goron, elle a un père qu'elle adore, qui la materne, elle le dit, et c'est peut-être pas une haine envers sa mère, mais il y a quelque chose de raté entre elles deux, hein, en tout cas peut-être de violence entre...
Mais moi c'est marrant parce que j'arrive pas à y croire tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, il y a beaucoup de violence entre la mère et la fille, une violence qui effectivement était présente à la génération précédente et qui se reproduit donc, mais... Je ne la crois pas vraiment.
Je vais donner un peu Zoé, l'idée de votre... Enfin de sa
Allez-y.
France, parce que vous très fidèlement, vous retranscrivez leurs paroles. Elle dit de sa mère, « En tant que mère, elle est insupportable, haïssable. En tant que femme de mon père, elle est très bien. En fait, j'adore leur couple. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Pour moi, justement, c'est un peu difficile parce que j'ai sous les yeux le couple le plus équilibré et le plus sain qui soit. Cela fait près de 30 ans qu'ils sont ensemble. Ils ne se disputent jamais. » Maman pique des crises, il la calme, c'est un parfait équilibre. Chacun a sa spécialité dans mon éducation, et puis ils ont tout le temps des choses à se dire, ils sont tout le temps en train de parler, de rigoler. Avec ma mère, je ne pense pas qu'il s'agisse de jalousie. Tout le monde dit que nous nous ressemblons, nous avons toutes les deux un caractère dur, elle a reçu une éducation qu'elle m'a transmise, j'en suis le produit. En fait, je n'en considère pas l'un plus que l'autre, mon père est le plus important, mais les deux ont un grand rôle dans ma vie.
Oui, c'est assez extraordinaire. Moi, je ressens beaucoup d'amour pour sa mère. Il y a une relation d'amour-haine entre Zoé et sa mère.
Alors, ce manque d'affection, enfin, entre guillemets, puisque le père de Joël Goron lui a donné énormément, mais il n'y avait pas ce que vous dites, on ne s'embrassait pas, on ne manifestait pas. C'est étrange parce que Zoé, elle aussi raconte qu'il y a des choses qu'elle ne supporte pas, qu'on lui touche les oreilles, les pieds, enfin, il y a une sorte de peur, panique envers des gestes qu'elle trouverait...
Oui.
En le propos, c'est très étrange, ça, ce schéma qui se...
Et c'est intéressant parce que justement, un des axes de mon livre...
Ah, je crois qu'il y a quelqu'un au téléphone. Pardon, je me suis trompée, j'ai cru qu'on avait un appel téléphonique, mais nous n'avons pas d'appel téléphonique, vous êtes tous en train de nous écouter, c'est encore beaucoup mieux.
Voilà. Oui, un des axes principaux de mon livre, c'est justement de dire qu'on est passé du père absent, qui était celui de la génération précédente, du père lointain, ou qui était le pourvoyeur économique de la famille et qui était très peu présent, qui déléguait complètement l'éducation de sa fille à sa femme. Et donc, on est passé d'un excès à l'autre. Avant, il y avait le père lointain, et aujourd'hui, les pères ont tendance à être un peu trop fusionnels. Donc, c'est vraiment comme un retour de balancier. Et donc, il n'y avait pas, dans la génération dont vous parlez, du père de Joël Goron, il n'y avait aucune tendresse entre le père et la fille, ça ne se faisait pas du tout. Aujourd'hui, c'est presque trop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pères, par exemple, qui embrassent leur petite fille sur la bouche, et ça prête beaucoup à confusion si, dans la tête de la petite fille, qui se dit très rapidement « mais c'est moi l'amoureuse de mon papa », même si le père ne se rend pas compte. Donc on est passé comme ça d'un extrême à l'autre, et ça me fait penser à ça, ce que vous me dites quand vous me parlez de ce témoignage.
Oui, je crois que c'est très fort. C'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est les contradictions dans le discours. Hein. Alors c'est vrai qu'on ne les interprète pas au lecteur de les interpréter. Alors, ce qui est aussi dans les différents témoignages, le dernier, c'est celui de Alice Ruffaut, donc la fille de Ruffaut, le célèbre pédopsychiatre, qui elle aussi a un discours qui est empêtré de contradictions, parce qu'elle adore son père qui l'a poussée dans la réussite. Hein. Il fait partie des pères qui, à tout prix, ont voulu, elle a passé finalement une normale sup, mais après des échecs et que son père ne supportait pas. Et elle a une relation fusionnelle avec sa mère, mais elle rend compte de toutes ces contradictions. Très bien, je trouve, cette jeune femme.
Oui, il y a une des grandes découvertes de ce livre, pour moi, ça a été vraiment une découverte, c'est que la fille doit se libérer de son père. Alors, on dit souvent que le fils doit se libérer de sa mère, que même que la fille doit se libérer de sa mère, mais moi, je n'avais jamais lu qu'il fallait qu'une fille aussi devait se libérer de l'emprise de son père. Donc, c'est normal aussi, mais toutes les filles doivent, à un moment donné, se libérer de son père, de leur père, pour ensuite, d'ailleurs, avoir des relations, j'allais dire, normales avec lui, d'adulte à adulte. Mais ça passe toujours par cette période-là. Donc, forcément, le père parfait n'existe pas. Mm-hmm. Tous les pères tous les pères font du mieux qu'ils peuvent avec leurs filles. Moi, j'ai un peu envie même de dire que tous les pères aiment profondément leurs filles. Alors, il y a beaucoup de pères maladroits, il y a beaucoup de pères malheureux, il y a beaucoup de pères qui ne savent pas comment s'y prendre. Mais, en fait, les pères aiment leurs filles. C'est un peu, j'ai envie de dire vraiment qu'il est impossible de faire autrement. Et donc, mais simplement, toutes les filles doivent, à un moment donné de leur vie, pouvoir prendre du recul par rapport à leur père et s'en libérer pour aller vers d'autres hommes.
Et Ruffaut est passionnant parce que donc c'est toujours les métèques sont les plus mauvais,
les cordonniers les plus mal chaussés.
Les mal chaussés. Donc il
sait très bien dire pourquoi. Il sait très bien dire pourquoi.
Il dit pourquoi, jalousie envers sa fille quand elle éprouve de l'amour pour un autre homme. Il a beaucoup de lucidité et de tendresse. Et
oui.
Ce récit est très drôle.
Et il dit très bien comment il peut aider d'autres enfants parce que justement il n'y a pas d'affectivité et combien c'est difficile pour quand il est papa.
Parce qu'il est dans l'aveuglement.
Il est
tous les pères.
Peut-être pas dans l'aveuglement. Je le trouve même un peu critique vis-à-vis de lui-même, mais il est un père comme les autres.
Oui, il y a beaucoup d'autres témoignages qu'il faut découvrir. Il faut lire votre livre. Il y a la relation entre Dominique Lapierre et son père, que j'ai trouvé passionnante. Ils sont unis par l'écriture. C'est une relation étrange parce qu'il y a l'absence du père dans toute la jeunesse de la petite Dominique Lapierre. C'était un baroudeur,
la petite Alexandra.
Et puis les retrouvailles avec son père, c'est aussi un autre roman. Enfin, il y a plein d'histoires dans ce livre, hein, Valérie Clasima, père d'aujourd'hui, fille de demain. Une dernière question, parce que malheureusement le temps nous manque. Est-ce que vous auriez envie d'écrire un livre sur les mères et les fils?
La réalité, c'est que oui. Et est-ce que ça, la possibilité, je ne sais pas si j'aurais le...
Est-ce que ce travail vous a ouvert les yeux sur les liens qui peuvent exister, les nœuds et les rugosités entre les mères et les fils? Ce travail sur
ça serait trop vite. Ce serait trop vite dit. Je peux avoir des petits éclairages nouveaux. Si un jour j'écris un livre sur les relations mère-fils, c'est sans doute ma compréhension sera plus rapide. Mais je peux pas comme ça être extrapolé. Non. Maintenant, je peux parler. Je suis capable de parler des relations père-fils. Je ne me sens pas encore capable de parler des relations mère-fils, d'autant que j'ai moi-même un fils de 10 ans.
Ça fait beaucoup plus difficile à écrire.
Bon, mais je suis un papa.
Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce livre qui est passionnant. Donc, Père d'aujourd'hui, fille de demain, publié par Anne Carrière. Merci Valérie Colasina.
Merci à vous, Caroline, pour vos questions extrêmement sensibles.
Au revoir.